Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Look, Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions langues étrangères de RFI, ce soir avec Judith Zheng de la rédaction chinoise. Vous nous direz pourquoi il y a tant de Chinois chez les cyberfraudeurs. Pour la rédaction vietnamienne, Letu Hang, avec le Vietnam qui recommence à attirer les touristes, et Esbel Lopez de la rédaction en espagnol,
Hola.
Pour ces nouveaux massacres au Mexique à cause du trafic de drogue. Aujourd'hui, le Groenland s'est doté d'un large gouvernement de coalition. Le nouveau Premier ministre explique que cela est pour faire face à la forte pression extérieure, le jour même de la visite du vice-président américain J.D. Vance, accompagné d'une délégation comprenant notamment le ministre de l'Énergie. Le vice-président américain arrive sur la base aérienne de Pituffik, que possèdent les États-Unis sur la côte nord-ouest du Groenland. C'est à 1500 km au nord de Nuuk, la capitale. Asbel, pourquoi est-ce que Trump veut s'approprier ainsi le Groenland ?
Mais il y a la base la plus au nord des forces armées américaines. Le nombre de militaires sur place semble modeste, 150 soldats. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient installé une douzaine de bases militaires au Groenland pour défendre l'Atlantique Nord contre une invasion nazie. Après, pendant la guerre froide, Pituffik servait de poste d'alerte en cas d'attaque de l'URSS. Aujourd'hui, elle reste un élément essentiel du bouclier antimissile américain. Elle est dédiée à la détection des tirs de missiles, à la défense antimissile et aux missions de surveillance de l'espace.
Et puis, sous la neige et la glace, il y a aussi d'immenses richesses naturelles.
Eh oui, l'île est riche en eau douce, notamment grâce à la fonte de sa calotte glaciaire. Le Groenland détient environ 10% des réserves mondiales d'eau douce. Elle contiendrait aussi 25 des 34 minéraux jugés critiques, notamment des terres rares. Ils représenteraient entre 12 et 20% des réserves mondiales de cobalt, de nickel, de cuivre, d'or, de zinc et de uranium. Ces matériaux sont stratégiques pour l'industrie électronique et la transition énergétique. L'île renferme également des réserves de pétrole et de gaz naturel. Ces eaux pourraient abriter jusqu'à 51 milliards de barils de pétrole. Enfin, le réchauffement climatique facilite l'accès aux ressources et pourrait en principe permettre un développement agricole et industriel sous l'île.
Donc les Américains veulent plus de présence dans cette région. C'est également vrai, Judith, de la part de la Chine. Ces dernières années, le pays a renforcé sa présence dans la région arctique.
Absolument. Cette région s'inscrit dans le projet de route de la soie sous Xi Jinping. Et en 2018, la Chine, dans son premier livre blanc sur l'Arctique, s'autoproclame d'ailleurs comme une puissance proche de l'Arctique, ce qui n'a pas plu à tout le monde. À part des efforts d'une présence via des contrats d'ordre économique, la Chine a aussi multiplié sa coopération avec la Russie dans la région. Poutine, dans sa stratégie de conquête de l'Arctique, a besoin des investissements pour les infrastructures. Il se méfie bien sûr de cette présence chinoise, mais le rapprochement entre la Russie et la Chine dans cette région, que ce soit économique ou militaire, inquiète aussi les Américains, ce qui motive d'ailleurs en partie la volonté américaine de prendre le contrôle sur cette île.
Et il faut dire aussi que cette polémique entre le gouvernement Trump et le Groenland préoccupe Taïwan.
Oui, cette épreuve de force entre Trump et Groenland et Danemark inquiète, car certains y voient un argument de plus pour la Chine de s'emparer un jour de Taïwan par la force.
On avait déjà dit ça à propos de l'Ukraine, concernant donc la Russie et l'Ukraine. Les Tuang, qu'en dit maintenant la presse au Vietnam ?
Alors, des médias vietnamiens ont relaté la déclaration du Premier ministre danois qui avait qualifié la visite d'acte de pression inacceptable, ou bien, d'après le gouverneur Groenland, c'est une tentative d'ingérence étrangère et cet acte inquiète surtout les petits pays, y compris le Vietnam, qui a fait face à des conflits de souveraineté en Méditerranée méridionale avec la Chine et une superpuissance comme les États-Unis qui débarque comme ça et qui déclare ouvertement vouloir posséder un territoire appartenant à un autre pays créerait un mauvais précédent.
Et puis il est insisté sur le fait qu'avec sa visite, J.D. Vance montre son caractère provocateur une fois de plus.
D'après le VN Express, le site le plus lu au Vietnam, cette visite s'inscrit dans ses efforts d'affirmer sa position au sein de l'administration Trump en soutenant sans réserve tous les projets de son président. Et on n'a pas encore oublié la scène choc à la Maison-Blanche où le vice-président monte le ton en premier contre le président ukrainien pour susciter l'ego du maître de la Maison-Blanche. Judy Vance ne cache pas son opposition à l'aide aux Ukrainiens et une certaine méprise envers les pays européens. On voit cette détestation dans ses échanges avec dans un groupe top secret sur Signal dévoilé précédemment par The Atlantic. Et à la Maison Blanche, son rôle a parfois été éclipsé par celui d'Elon Musk, mais les personnes qui travaillent avec Vance pense que le vice-président cherche à tracer sa propre voie et d'après la presse vietnamienne, tous ses efforts visent à renforcer son ambition de devenir le successeur potentiel de Donald Trump.
Voilà, J.D. Vance, le vice-président américain qui, ce soir, est au Groenland. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Une fois encore, penchons-nous sur cette violence qui dévaste le Mexique. Selon les chiffres officiels, le nombre de disparus au cours des 10 dernières années serait de 120 000. Et il y a quelques jours, il y a eu une macabre découverte dans une zone rurale de l'état de Jalisco, des ossements calcinés retrouvés dans une propriété. Asbel Lopez de la rédaction Hispanophone, il pourrait s'agir d'un centre d'extermination, d'entraînement des tueurs à gages, ce qu'on appelle les sicarios.
Oui, au Mexique, les familles des disparus se sont regroupées en collectif pour chercher leurs proches. Ce sont elles qui ont parlé de l'existence d'un centre d'extermination et d'entraînement de sicarios dans la finca Izaguirre, une propriété située en périphérie de Tochtitlán, à Jalisco. Ce site avait déjà été inspecté par le parquet. Dans cette localité où sévit le cartel Jalisco Nueva Generación, l'un des groupes narcos les plus violents du pays, il y a le collectif Guerreros Buscadores, guerriers chercheurs. C'est lui qui a découvert dans l'Orange Izaguirre plus d'ossements que lors des premières fouilles menées par le parquet de Jalisco en septembre dernier. Les membres du collectif ont mis au jour d'autres ossements enterrés ainsi que des centaines de chaussures et divers objets. Les autorités locales sont donc retournées à Izaguirre et après avoir admis que leurs recherches étaient insuffisantes, elles ont désormais formel, il n'y avait pas de construction spécifique servant de four crématoire.
Oui, mais il y avait des cadavres dans cette propriété, pour quelle raison?
Notre collègue Melissa Barra a interviewé une madre buscadora, une mère chercheuse de Jalisco. Elle s'appelle Vicky Ponce. Écoutons ce qu'elle nous a dit.
Era un centro de reclutamiento.
Que dit-elle?
Qu'il s'agit effectivement d'un centre d'entraînement pour sicarios, des tueurs à gages. Il est aussi connu sous le nom de centre de recrutement. Ce n'est donc pas un centre d'extermination. Ceux-ci ont été découverts ailleurs. Cela n'empêche pas que ce qui se passe dans ce genre d'endroit est une horreur. Et les ossements découverts en sont l'illustration. Nous avons demandé à un spécialiste pourquoi il y a des morts dans un tel centre, alors qu'il est censé former des individus qui vont rejoindre les rangs des cartels. José Andrés Sumano Rodríguez est professeur à l'Université Frontière Nord, el Colegio de la Frontera Norte à Tijuana, au Mexique.
Entonces, parte de los cuerpos pues, son de las personas que fueron reclutadas mediante reclutamiento forzado o que voluntariamente llegaron.
Aidez-nous à comprendre, Isabel.
Que les ossements retrouvés à la finca Izaguirre sont très certainement ceux de personnes recrutées de force, mais aussi de volontaires. Elles sont venues, ont participé à l'entraînement, mais n'ont pas fini. Elles n'ont pas donné les résultats escomptés. Et dans ce cas, elles ont tout simplement été assassinées. Pues los matan, dit Sumano. Ce spécialiste précise qu'il existe d'autres sites exclusivement dédiés à l'extermination pour faire disparaître des corps. Les cartels appliquent un principe bien connu de ces organisations, pas de corps, pas de délit. Près de 94% des affaires connues des parquets des États n'ont pas été résolues selon les données de 2023.
Et quant aux proches des disparus, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils demandent?
Vicky Ponce nous disait que sa priorité est avant tout de savoir où est son fils, s'il est vivant ou non. Les familles exigent aussi des autorités le respect d'une loi de 2018 qui les oblige à créer une base de données nationale sur les personnes disparues et non localisées. Il s'agit d'un registre national accessible en ligne et mis à jour quotidiennement.
Et est-ce qu'elle est appliquée, cette loi?
Mais justement, Melissa Barra a interviewé le porte-parole du Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Écoutons Martín Villalobos.
Lamentablemente, la mayor parte de las desapariciones de larga data pues iniciaron por temas de secuestro.
Donc là, il évoque toutes sortes de difficultés. D'abord, la loi qui reconnaît la disparition au Mexique est entrée en vigueur début 2018. Avant cette date, toute disparition était classée comme un enlèvement. Cela pose des problèmes nombreux. Il est par exemple très difficile de faire basculer un dossier d'enquête d'enlèvement à disparition. Il y a aussi un manque criant des moyens. Les parquets des différents États n'en disposent tout simplement pas des outils informatiques nécessaires. Pas d'ordinateur, pas de logiciel compatible.
Asbel Lopez de la rédaction en espagnol de RFI. Ces derniers mois, il y a eu une intensification de la lutte contre la criminalité, contre la cyber-escroquerie, et cela dans les pays d'Asie et du Sud-Est, plus particulièrement en Birmanie et en Thaïlande. Des gens ont été libérés par la police et il apparaît que beaucoup d'entre eux sont chinois. Judith Jiang de la rédaction chinoise de RFI, pour quelles raisons ?
C'est vrai que parmi les quelques 7000 personnes en attente du rapatriement à leur pays en Thaïlande, presque 5000 sont chinois. Alors, Madame Sharon Ingrid Ko, docteur en criminologie et spécialisée dans la criminalité organisée en Asie, et nous donne quelques éléments d'explication.
Que dit-elle, Judith ?
Alors, pour elle, le premier élément d'explication est d'ordre socio-culturel, car les Chinois ont tendance à rester entre eux et vivent un peu à l'écart de la société locale, ce qui fait qu'ils n'ont pas assez de connaissances sur ce qui les entoure, et en cas de problème, ils ne savent pas à qui demander de l'aide. Ils sont aussi assez sensibles à des messages provenant d'une autorité, surtout quand ils sont dans une situation de séjour irrégulier ou impliqués dans des commerces illicites. Mais les escrocs se présentent souvent comme des représentants de l'ambassade ou de la police ou du service de l'immigration. Alors, Madame Cook a souligné aussi une particularité assez intéressante, c'est-à-dire le peu de méfiance des Chinois face aux informations fausses, et ils sont plus enclins à se laisser convaincre par des discours complotistes, ce qui fait aussi d'eux une proie facile pour ce genre de piège.
Cela dit, la Chine est réputée pour son contrôle de l'information et contrôle des réseaux sociaux.
Mais justement, Madame Sharon Ko explique que le fait de ne pas avoir un espace d'expression libre, doté d'un mécanisme de vérification des infos, et à travers des débats libres et ouverts, les internautes n'ont pas toujours la capacité de faire la part des choses face à tout ce qui circule en ligne. Et toutes ces histoires de fortune rapide, invérifiables, mais qui ne font pas l'objet de censure, peuvent aussi inciter les gens à tenter sa chance. Donc, non seulement ils n'ont pas accès à des informations fiables, et en plus, ils ont très peu de connaissances en matière de l'économie et de la finance.
Alors ça, c'est pour la main-d'œuvre, mais il semblerait aussi que de nombreux chefs de ces réseaux soient chinois également.
Oui, effectivement, d'après une ONG malaisienne, plus de 90% de ces centres, en Malaisie en tout cas, sont contrôlés par des Chinois. Il faut dire que le développement rapide de ces centres d'escroquerie en ligne est très lié avec ce qui se passe en Chine. Écoutons l'explication de Madame Sharon Ko.
Quel est le commentaire de cette experte?
Alors, Madame Ko explique que beaucoup de ces centres, à l'origine, sont des agences de tourisme, d'immobilier ou de casino. Mais le Covid-19, l'interdiction des jeux en ligne par les autorités chinoises, le ralentissement de l'économie chinoise, tous ces éléments ont forcé ces centres à trouver une autre activité lucrative. D'autant que ces casinos disposent déjà d'une infrastructure numérique et un système de paiement servant avant en même temps de plateforme du blanchiment d'argent. Alors, elle a remarqué aussi que les projets de nouvelles routes de la soie ont aussi facilité le développement de ce genre d'activité criminelle. D'une part, les casinos se multiplient suivant le rythme de la présence chinoise et de l'autre, les pays qui accueillent ces projets créent souvent une zone économique spéciale pour attirer les investissements. Qui dit zone économique spéciale dit souplesse de gestion, avantages fiscaux, etc. Alors, l'argent sale en profite. satellites et ses capitaux qui cherchent à quitter la Chine aussi. Dans ce cas-là, si les pays en question souffrent de la corruption ou d'instabilité politique comme la Birmanie depuis le coup d'État, c'est donc un peu la porte ouverte à toutes sortes d'acquisitivités criminelles. Et elle a aussi remarqué que, en quelque sorte, Cambodge ou Birmanie, peut-être Philippines dans une moindre mesure, sont aussi en train de reproduire ce qui s'est passé dans la première zone économique spéciale chinoise à Shenzhen dans les années 80, qui a aussi connu une recrudescence des criminalités de tout genre à son début.
Judy Jiang de la rédaction chinoise de RFI. Direction Vietnam. Le Vietnam, où le secteur touristique retrouve des couleurs. Le pays accueillait l'année dernière près de 17,5 millions de visiteurs. Ce chiffre reste inférieur de 2% par rapport au niveau d'avant la pandémie, 2019, mais il pourrait être dépassé cette année. Lê Thu Hang de la rédaction vietnamienne, comment expliquer cette tendance à la hausse ?
Alors, le Vietnam est le troisième pays le plus visité en Asie du Sud-Est, après la Thaïlande et la Malaisie. Les touristes chinois sont les plus nombreux au Vietnam parce qu'ils cherchent un autre endroit plus sûr. La révélation de nombreux scandales et de kidnappings, le démantèlement de plusieurs centres et réseaux d'escroquerie en Thaïlande et en Birmanie, comme ma collègue a abordé tout à l'heure, ont suscité l'inquiétude pour leur sécurité. Et la Corée du Sud a confirmé sa place de principal marché pour le Vietnam. Et la deuxième raison, d'après le média Bloomberg américain, est expliquée par la création de plusieurs vols directs entre les États-Unis et le Vietnam. Et les Américains sont désormais l'exemple de visa jusqu'à 90 jours au lieu de 30.
Oui, et parmi ces Américains, il y a beaucoup d'Américains d'origine vietnamienne.
Hein. Alors, c'est exact. Et d'ailleurs, l'exemption de visa jusqu'à 45 jours a aussi été prolongée pour les visiteurs de 12 pays jusqu'en 2028, donc pour la plupart des pays européens, dont la France. Et enfin, le réseau des hôtels de luxe contribue à changer le tourisme du Vietnam. Le pays vise désormais à une clientèle mondiale riche en leur fournissant un service personnalisé qui répond à tous leurs exigences et tout en mettant en valeur l'authenticité de la culture vietnamienne. On parle du séjour de Bill Gates avec sa compagne, du mariage du fils d'un milliardaire indien ou des séjours de plusieurs milliardaires indiens en 2024.
Alors, est-ce qu'on peut évaluer les effets produits par cette mesure d'exemption de visa?
Alors, ces effets ont été expliqués par M. Winston Hai, le directeur de la société La Palange, spécialisée aux clients francophones, et notre collègue l'a rencontré au Salon mondial du tourisme Paris. Écoutons-le.
Trước đây 2 năm chỉ có 15 ngày miễn visa thôi. Tất cả các công ty đều chỉ làm hạn chế trong 15
que dit ce responsable?
Alors, il a expliqué, il y a 2 ans, nous proposons les circuits de 15 jours qui correspondaient à la durée d'exemption de visa. Cette durée est de 40 jours actuellement. Et pour un séjour de 2 semaines, par exemple, les voyageurs pourraient désormais le programmer à leur aise pour obtenir un meilleur tarif, le plus adapté à leurs moyens. Et l'exemption de visa de 45 jours est une avancée majeur et cela permettrait d'amener les visiteurs vers les zones les plus lointaines, les plus profondes, vers les lieux l'appeler authenticité.
Est-ce que le Vietnam compte beaucoup sur le tourisme dans sa relance économique ?
Alors, le tourisme est considéré au Vietnam comme l'industrie sans fumée, a apporté au pays un chiffre d'affaires record de 33 milliards de dollars l'an dernier. Et l'objectif est de devenir une puissance touristique en Asie en visant entre 22 et 23 millions de touristes et des recettes de plus de 41 milliards de dollars. Et face à la concurrence féroce avec les pays voisins, dont la Thaïlande, le Vietnam continuera à exploiter et développer aussi le tourisme d'affaires, le tourisme golfique et d'autres segments haut de gamme afin d'attirer une clientèle plus exigeante et à fort potentiel de dépenses.
Et ça se passe donc au Vietnam avec Lê Thu Hang pour nous en parler de la rédaction vietnamienne de RFI. C'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Ce chef d'entreprise a traversé toute l'histoire récente de la RDC, dont il dirige l'un des plus grands groupes privés. Le Belge Georges-Arthur Forest, 85 ans, pense que l'Afrique peut nourrir le monde. Le vice-roi du Katanga, tel qu'il est surnommé, est notre invité exceptionnel.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.